Aujourd'hui, je vais vous lire Sri Aurobindo parle de la mer. Chapitre 1. Seuls deux pouvoirs par leur conjonction peuvent accomplir la grande et difficile tâche qui est le but de notre effort. Une aspiration constante et infaillible, appelant d'en bas, et une grâce suprême répondant d'en haut. Mais la grâce suprême n'agit que dans les conditions de la lumière et de la vérité. Elle n'agira pas dans les conditions imposées par le mensonge et l'ignorance. Car si elle devait se soumettre aux exigences du mensonge, ce serait la ruine de ses propres desseins. Voici les conditions de lumière et de vérité, les seules conditions sous lesquelles la force la plus haute descendra. Et c'est seulement la plus haute force supramentale descendant d'en haut et ouvrant le passage d'en bas qui pourra manier victorieusement la nature physique et annihiler ses difficultés. Il faut un don de soi total et sincère, une ouverture de soi tournée exclusivement vers le pouvoir divin, une admission constante et intégrale de la vérité qui descend, un constant et intégral rejet du mensonge, des pouvoirs et des apparences, du mental, du vital et du physique qui gouvernent encore la nature terrestre. Le don de soi doit être total et s'étendre à toutes les parties de l'être. Ce n'est pas suffisant que le psychique réponde, que le mental supérieur accepte, ou même que le vital intérieur se soumette, et que la conscience physique intérieure sente l'influence. Il ne doit rien n'y avoir dans aucune partie de l'être, même la plus extérieure, qui se réserve et qui se cache derrière des doutes, des confusions, des superfuges, rien qui se révolte ou se refuse. Si une partie de l'être se soumet, mais une autre partie se réserve et suivre son propre chemin, ou pose ses propres conditions, et chaque fois que cela se produit, vous repoussez vous-même la grâce divine loin de vous. Telle est l'attitude vraie. Et seulement ceux qui peuvent la prendre et la garder seront conservés une fois que les déceptions et les difficultés n'ébranleront pas et passer à travers l'épreuve vers la victoire suprême et la grande transformation. À travers sa Shakti, le divin est derrière toute action et tout ce qui est fait dans l'univers. Mais il est voilé par sa Yogamaya et travaille à travers l'ego du Jiva dans la nature inférieure. Dans le yoga aussi, le divin est le sadhak et la sadhana. C'est la Shakti qui rend la sadhana possible par sa lumière, son pouvoir, sa connaissance, sa conscience, son ananda agissant sur l'adhar, l'être physique. Et quand celui-ci s'ouvre à elle, se déversant en lui avec ses forces divines, mais tant que la nature inférieure est active, l'effort personnel du sadhak reste nécessaire. L'effort personnel qui est demandé est un triple labeur d'aspiration, de rejet et de don de soi. Une aspiration vigilante, constante, incessante. La volonté de l'esprit, la recherche du cœur, l'assentiment de l'être vital, la volonté d'ouvrir et de rendre plastique la conscience et la nature physique. le rejet des mouvements de la nature inférieure, le rejet des idées, opinions, préférences, habitudes et constructions du mental, afin que la connaissance véritable puisse trouver le champ libre dans un esprit silencieux. Le rejet des désirs, réclamations, sensations et passions de la nature vitale, de son égoïsme, son orgueil, son arrogance, sa luxure, son avidité, sa jalousie, son envie et son hostilité envers la vérité. Afin que le pouvoir et la joie véritable puissent se déverser d'en haut, dans un être vital calme, grand, fort et consacré. Le rejet de la stupidité, du doute, de l'incrédulité, de l'obscurité, de l'obstination, de la petitesse, de la paresse, du mauvais vouloir à changer et du tamas de la nature physique, afin que la stabilité véritable de la lumière, du pouvoir, de l'ananda s'établisse dans un corps devenant de plus en plus divin. Le don de soi, de tout ce qui est, de tout ce que l'on possède, de chaque plan de la conscience et de chaque mouvement au divin et à la Shakti. Dans la mesure du don et de la consécration de soi, le sadhak prend conscience que la Shakti divine fait la sadhana et pénètre en lui de plus en plus, en y établissant la liberté, la perfection de la nature divine. Puis, cette opération consciente remplace son propre effort. Plus rapide et véritable devient le progrès. Mais elle ne peut faire disparaître complètement la nécessité de l'effort personnel qu'au moment où la soumission et la consécration sont devenues pures et complètes d'en haut. Remarquez qu'une soumission tamasique, refusant de se soumettre aux conditions et demandant au divin de tout faire et de vous épargner toutes les difficultés et toutes les luttes et une duperie et ne mène ni à la liberté ni à la perfection. Alors, le chapitre de Sri Aurobindo parle de la mère est le but de son incarnation. Différentes apparences de la mère. La mère a de nombreuses personnalités différentes et son apparence varie en fonction de celles qui prédominent. Toutes ont bien entendu quelque chose de commun. Il y a d'abord celle que toutes ces personnalités manifestent, mais il est impossible d'en dire avec des noms ou des mots. Il y a également la personnalité supramental qui est derrière le voile, préside au but de la manifestation actuelle. Pourquoi, une question à Sri Aurobindo, pourquoi la mère paraît-elle différente selon les moments? Ainsi, lors du pranab ou de prospérité, ou bien lorsqu'elle accorde une entrevue, il arrive même que les différences anatomiques soient visibles. À quoi tiennent ces différences dans son apparence? Fonction du degré de son extériorisation. Cela dépend plutôt, me semble-t-il, de la personnalité qui se manifeste à l'avant, car elle a de nombreuses personnalités et son corps est suffisamment plastique pour exprimer à chaque fois quelque chose de celle qui vient en avant. Révélation de la venue de Mère. Mère était physiquement sur la Terre depuis 8 ans. De 1878 à 1886, lorsque Ramakrishna faisait sa sadhana, Savait-il que mère était descendue? Dans les visions de son enfance, mère me voyait et me connaissait comme Krishna. Elle n'a pas vu Ramakrishna. Il n'était pas nécessaire qu'il y ait une vision de sa descente, puisqu'il ne pensait pas à l'avenir, ni ne le préparait consciemment. Je ne crois pas qu'il eût l'idée d'une incarnation de la mer, voir le divin dans la mer. Ce matin, j'ai perçu en la mer une grande beauté. C'était comme si tout son corps avait resplendu d'une lumière surnaturelle. J'en ai fait eu l'impression qu'une déesse suprême était descendue. Voulez-vous avoir la bonté de m'en expliquer la raison ? Vous avez tout simplement senti la divinité qui est toujours là, présente constamment avec elle. Quant à voir, dès le premier regard, le divin en la mer, il n'est pas le seul à le faire. C'est arrivé à bien des gens. Ainsi, une musulmane qui a peine en présence de la mer a déclaré « Ce n'est pas une femme, c'est une déesse » et n'a cessé depuis lors de la voir en des rêves significatifs et qui, lorsqu'elle est en difficulté, pense à elle et reçoit l'aide immédiate qui la tire de sa difficulté. Il est moins difficile de voir le divin en la mer que vous ne semblez me le dire. Reconnaissance de la divinité de la mer. Il y a des gens pour qui c'est immédiat, pour d'autres cela prend du temps. Dès le premier regard, j'ai reconnu que la mer était divine et depuis n'a cessé d'être heureux. D'autres qui comptent parmi les dévots de la mer ont mis des années à s'en apercevoir ou de l'admettre, mais ils y sont tout de même arrivés. Il y a des gens qui, pendant les 5 premières années ou davantage, n'ont connu que difficultés et révoltes, mais le psychique n'en a pas moins fini par s'éveiller. Le temps qu'il faut n'a aucune importance. La seule chose indispensable, tôt ou tard, facilement ou non, mais y arriver. La mer et l'organisation, apprendre à vivre à l'intérieur. Fixer un emploi du temps n'est ni possible ni souhaitable. Vous devez vous-même organiser votre journée de manière à en faire le meilleur usage est tenir la mer au courant. La chose la plus importante est d'être tournée intérieurement vers elle et elle seule. Éviter d'avoir trop de contacts extérieurs n'a d'autre nécessité que d'y aider. Mais il n'est ni nécessaire ni désirable d'éviter tout contact avec les gens. Ce qui est nécessaire, c'est de répondre à ces contacts avec le mental et la conscience juste, sans vous précipiter à l'extérieur, en les traitant comme des choses de surface, sans vous y attacher, ni vous y absorber aucunement. Bien entendu, c'est une condition intérieure concentrée dans laquelle vous avez pu venir en contact avec la mer. Les fleurs indiquent toujours une ouverture dans quelque partie de la conscience. Mère n'approuve pas du tout l'idée d'une complète retraite. Cela n'amène pas à la maîtrise, seulement une illusion de la maîtrise. Du fait que les motifs d'ennui sont écartés pour un temps. Seule est authentique une maîtrise établie pendant que l'on est en contact avec les choses extérieures. Vous devez le faire de l'intérieur. par une résolution et une pratique fixe. Il faut éviter d'avoir des fréquentations et de trop parler. Mais une complète retraite n'est pas la solution. Jusqu'à présent, cela n'a eu avec personne le résultat escompté. Alors, je vais terminer. Danger de la théorie, tout vient de la mer. Ce que vous écrivez en soi est inattaquable. C'est en fait ce qu'au début on a offert à tous les aspirants. Mais là est précisément la difficulté, obtenir la complète sincérité de la nature. Il y en a peu qui aient été capables de s'y hisser, et seule une lointaine approximation a été atteinte par certains. À part la complète sincérité, il y a eu la difficulté du cerveau qui est voilé par l'égoïsme et les désirs. Et il s'imagine faire exactement une chose alors qu'il en fait une autre. C'est pourquoi j'ai parlé du danger de la théorie, selon laquelle tout vient de la mer. Il y a des gens qui ont cru que tout ce qui vient de leur ego ou de leur vital vient de la mer, est inspiré par elle ou bien est ce qu'elle leur a donné. Il y en a d'autres qui ont pris cette théorie comme excuse pour continuer librement dans la vieille ornière en disant que lorsque la mer voudrait changer les choses, elle les changerait. Il y en a même eu certains qui, sur cette base, ont créé en eux une mère subjective dont ils opposaient les ordres qui flattaient leur ego et leurs désirs, aux ordres contraires de la mère qui est ici. Et il en venait à penser qu'après tout, cette mère extérieure est nouvelle, que la chose réelle est la mère intérieure, ou bien qu'elle les mettait à l'épreuve en contredisant les ordres intérieurs pour voir ce qu'ils feraient. La vérité reste la vérité, mais il faut également avoir l'œil, ce pouvoir de torsion que possède le mental et d'autres parties de la nature. Faculté d'avoir des perceptions justes. La mère n'a jamais voulu dire qu'il suffisait de vouloir pour pouvoir tout de suite connaître ce qu'il y avait en quelqu'un d'autre, ni que toutes les impressions que l'on aurait à son sujet seraient automatiquement et infailliblement correctes. Ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'il existe une faculté ou un pouvoir par quoi l'on peut avoir les perceptions et les impressions justes que l'on peut développer si on le veut. Pas d'un seul coup, pas par une méthode facile. Et puis, tralala, ça y est. Cela peut prendre des années et l'on doit être prudent et scrupuleux, très scrupuleux, car il s'agit des perceptions intuitives. L'intuition est une chose que peuvent facilement imiter nombre d'autres mouvements de la conscience qui sont beaucoup plus faillibles. Vos impressions peuvent être mentales ou vitales et une impression mentale ou vitale peut être ou non justifiée par quelque chose. Cependant, même dans le premier cas, on n'a pas la moindre certitude qu'elle sera correcte. Même si elle est identique, elle peut être incorrectement saisie ou saisie avec un grand mélange d'erreurs, dénaturées, faussées, mises dans le mauvais sens. Et il peut ne pas y avoir de justification du tout. Ce peut être simplement une formation erronée de votre mental ou de votre vital, ou l'impression fausse de quelqu'un d'autre, transmise jusqu'à vous et acceptée par vous comme vôtre. Vos impressions peuvent être le résultat d'un manque d'affinité entre vous et la personne, en sorte que celle-ci ne vous fait aucune impression, ou bien une impression neutre. C'est parce que vous ne pouvez pas éprouver ce qui est en elle. Cela ne vous est pas familier, ou bien, si vous la sentez dans une mauvaise disposition, c'est peut-être seulement que ses intuitions vitales prennent les vôtres à rebrousse-poil. Il y a, comme cela, des tas de choses que l'on doit avoir. Le pouvoir de distinguer très soigneusement et avec précision. Voilà, je termine cette lecture où Aurobindo parle de la mer. Je dépose cette lecture aux pieds de Aurobindo et de Douce Mère. Ganga Lakshmi.